Regard sur le christianisme, aux sources de notre foi, une émission proposée par Catherine Mann et Simon Martin. De notre précédente émission, que je vous invite à réécouter sur le site de Radio Grand Ciel, nous avons parcouru le règne de Charlemagne en mettant le doigt sur la confusion entre le politique et le religieux et l'importance de la culture. En effet, avec Charlemagne, nous voyons se généraliser un des aspects essentiels de l'Église, la conservation et la diffusion de la culture. En 789, c'est l'Admonitio Generalis, prescrivant l'établissement d'une école dans chaque monastère et dans chaque évêché. Pendant des siècles, les intellectuels seront principalement des clercs. Mais nous assistons également à l'influence du pouvoir temporel sur le sacré. Ainsi, en 799, suite à une émeute, le pape fuit Rome et se réfugie auprès de Charlemagne. Quelles conséquences ces deux réalités ont-elles eues sur le christianisme ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en compagnie de Catherine Mann, qui est bibliste. Bonjour Catherine.
Bonjour Simon, bonjour à tous, et qui n'a pas forcément les réponses à toutes ces grandes questions.
Nous allons
Mais on peut essayer d'y réfléchir.
Ensemble. Alors, une étape importante dans l'histoire du christianisme, c'est l'évangélisation de l'Allemagne par Saint Boniface.
Oui, et comme les autres, on avait vu, ils viennent du monde anglo-saxon. Donc c'est aussi un immigré, il fait un voyage à Rome, et effectivement il rencontre le pape Grégoire II, qui en fait son missionnaire, et principalement l'Allemagne. Il a été appelé vraiment l'apôtre des Germains, hein. Ce qui est tout à fait étonnant, parce que c'est des gens qui se déplaçaient quand même beaucoup à pied. Mais bon, c'est la vraie mission, et il a réussi à unifier l'Allemagne, en lui donnant un statut d'ailleurs un peu particulier de lien direct avec Rome.
Et Saint Boniface a reçu le soutien des Carolingiens dans sa mission.
Ah oui, tout à fait. Et il fera donc d'un deuxième pape avec Grégoire III. Et effectivement, il y aura des grands conciles germaniques.
Alors parmi ces conciles, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises. Nous en avons vu quelques-unes le mois dernier. Par exemple, l'interdiction du concubinage, de l'usage des armes, l'interdiction des coutumes païennes et idolâtres, des superstitions. Il y a parmi ces décisions l'interdiction du monopole de la règle de Saint Benoît.
Oui, c'est une drôle de petite révolte. Ça n'a pas vraiment eu de portée, mais c'est vrai que petit à petit, la règle de Saint-Benoît s'est imposée partout, finalement, au fil des siècles. Elle a absorbé Saint-Colomban, elle a absorbé toutes les petites orientations monastiques, parce que c'était une règle qui, finalement, était assez équilibrée et souple. Et à force elle était devenue presque synonyme d'église catholique. Et il y a eu d'autres désirs qui sont apparus. Comme toujours, quand ça marche bien, quand c'est unifié, on voit apparaître les divisions. Et quand c'est trop divisé, il y a toujours quelqu'un pour faire l'unité, mais quand l'unité est faite, on voit apparaître les divisions. Donc là, on essaye de redonner plus de liberté à la vie religieuse. C'est peut-être grâce à ça qu'on a eu déjà, juste après, les moines soldats ou peut-être plus de gens orientés vers le service social.
J'allais y venir. Donc, les moines en Europe vont façonner l'Europe chrétienne, vont façonner l'Occident de plein de manières différentes par la culture dans les deux sens du terme.
Et effectivement, aura et labora, la loi d'agir sur les deux plans spirituels et matériels. Et puis surtout, ils ont permis vraiment de maintenir une civilisation contre la dégradation des invasions barbares.
Alors, est-ce qu'on peut faire un tout petit saut en arrière pour revenir justement aux origines de cette règle de Saint-Benoît et sur Saint-Benoît lui-même ? Parce que là, ça fait quelques centaines d'années en arrière, on est au 5e siècle.
Ben, en fait, on ne sait pas énormément de choses historiquement, parce qu'effectivement, 5e siècle de la vie de Saint-Benoît, on ne connaît que née à la fin du 5e siècle, peut-être vers 490, sans doute mort vers 547, donc au 6e, mais on connaît surtout le récit de sa vie fait par le pape Saint Grégoire le Grand. Donc c'est un peu romancé et on n'a pas beaucoup de précisions. Hein. On sait qu'il était probablement d'une famille relativement aisée, mais qui s'est vraiment dévoué très très vite au service de la société. Donc, mais en même temps, aussi à la solitude et à la contemplation. Alors voilà, de ces deux choses est née cette règle. Il est allé chercher des règles anciennes et puis il les a aménagées jusqu'à trouver comment équilibrer la prière, la contemplation et le service utile à la société. Parce que son idée, c'est pas tellement... Il n'a pas d'idée préconçue. Mais de quoi a-t-on besoin et comment est-ce qu'on peut venir en aide? C'est son réalisme qui a fait son succès. Mais en fait, on dit que ses premiers disciples venaient quand même de l'aristocratie romaine. Les gens qui pouvaient se permettre de quitter le monde étaient souvent des gens déjà très cultivés et aisés.
Et ça va perdurer pendant,
ça va
pendant très longtemps. Et vous m'aviez dit qu'en Belgique, ça a perduré jusqu'au 19e, 20e siècle.
Moi, j'ai encore connu...
l'aristocratie qui...
Mais j'ai encore connu un monastère de bénédictines à Maretsu. Il y avait le monastère des femmes où il y avait encore les sœurs converses qui, par rapport aux bénédictines...
Alors les converses, expliquons, ce sont des...
Celles qui font plus les tâches concrètes, qui sont plus au contact des gens extérieurs pour permettre aux bénédictines d'avoir une vie contemplative et...
Et vraiment retirées pour le coup, sans...
Oui, peu concernées par les difficultés du monde. Et c'était un peu la noblesse belge, quand même, qui était là. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, mais enfin, je ne suis pas si vieille que ça. Donc, ça... Alors que les hommes avaient déjà arrêté ce système.
Alors, il y a toujours eu, en tout cas, dès l'époque à laquelle nous parlons, c'est-à-dire 7e, 8e siècle, 9e siècle, il y avait déjà cette tension dans les monastères entre... certains qui allaient vers plus de possession et puis une volonté de retour à plus de vérité, plus de pauvreté, ou c'est venu après.
Je crois que c'est pas lié à la vie monastique, c'est lié au christianisme en général. On nous demande quand même à tous la sobriété, la pauvreté, mais la pauvreté en soi n'est pas un but. Et donc, il y a toujours eu des degrés de réflexion dans les monastères en disant la misère ne sert à rien. Et donc les monastères bénédictins faisaient quand même aussi, comme on dit, des petites provisions pour l'hiver. Ils avaient un bon sens. La pauvreté en soi, c'est au service quand même d'une utilité pour le monde. Hein. Donc il faut ni trop ni trop peu, trop ou trop peu sont des nuisances. Et donc dans l'idée de Saint-Benoît, c'était toujours garder la mesure en fonction pragmatique des besoins et des réalités. Moi, je pense que c'est une règle extrêmement souple et extrêmement concrète, ce qui lui a permis justement de s'imposer à tout le monde, parce qu'on tient compte des réalités et pas d'excès.
Et pourtant, des excès, il y en aura.
Et bien sûr, les excès, il y en aura.
On en reparlera au Xe et XIe siècle avec Cluny, et puis l'apparition des cisterciens, qui sera justement une branche un peu dissidente des
Et même, ce qui m'étonne le plus, qui est dans la règle de Saint-Benoît, l'obéissance est liée à la liberté de la personne. C'est-à-dire, a priori, le moine n'est pas obligé d'obéir. Il n'y a pas... on fait appel à sa liberté et à sa compréhension, à son bon sens. Or, on a vu à travers les âges des excès d'obéissance qui allaient jusqu'à l'interdiction de sortir du monastère une fois qu'on y avait mis les pieds. Il y a des excès, il y en a toujours. Et le fondateur, c'était celui qui avait cette espèce de liberté aussi, d'action et de bon sens. Vivre ensemble, c'est une histoire d'amour, c'est pas une histoire de contrainte et de souffrance. j'ai essayé, avant l'émission, de regarder combien de genres de monachisme il y avait et de congrégations religieuses. Et en fait, je suis arrivée à la conclusion que même le bon Dieu ne sait pas combien il y a de types de communautés religieuses. Il y a toujours le dissident ou l'orientation particulière, la spécialisation. Et même par rapport à la règle de Saint-Benoît, effectivement, on aura ceux qui se spécialisent dans la liturgie, comme Cluny, ceux qui vont se spécialiser dans l'ascèse hérémitique, ou même jusqu'à Saint-Bruno, les petites... De Saint-Benoît lui-même, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que sa règle a mis 2 siècles à s'imposer en Gaule, mais elle s'est vraiment imposée parce qu'elle était adaptable et utile autant spirituellement que concrètement.
Alors, nous sommes en 785, c'est la fin de l'indépendance et du paganisme des Saxons. Durant cette période, il y a un développement de construction d'églises, de monastères, de bibliothèques, et Charlemagne s'investit véritablement dans les conciles et les prises de décision concilaires. Et ce n'est pas uniquement par souci de pouvoir, c'était quelque chose qu'il avait vraiment à cœur. Il s'est intéressé à la théologie.
Oui, moi j'ai toujours lu qu'il avait fait venir Alcuin, le moine de York.
Oui, nous en avons parlé de la
York,
dernière fois,
là,
oui.
Parce que justement, il était lui-même féru. Enfin, il voulait vraiment connaître tout, il voulait savoir. Et puis, moi, j'oublie pas quand même qu'il a été considéré comme un saint, Saint Charlemagne. Enfin, mais il a été béatifié. Et puis, Benoît XIV l'avait fait bienheureux, puis ça a été retiré quand même, parce qu'on trouvait que c'était pas très adapté pour un conquérant. Je sais qu'il a fait beaucoup de désordres au Concile de Nicée II, en 787, sur la querelle des images. Il comprenait pas toujours très bien, et il se mêlait un peu des choses. Quand on a le pouvoir absolu et qu'on comprend un peu de travers, ça... Et il a mis vraiment la zizanie avec l'Église d'Orient, avec Byzance.
Alors, il faut qu'on s'arrête un tout petit peu sur cette histoire du concile anti-nicéen, sur la querelle des images, parce que ça va être vraiment un point de désaccord extrême avec l'Église d'Orient. Est-ce que vous pouvez nous en dire...
Comme l'islam ou le judaïsme ont gardé l'interdiction biblique de représenter Dieu. Donc, il y a eu effectivement forcément un courant chrétien qui s'est dit « on ne peut pas représenter Dieu, c'est hérétique ». Et puis, vous avez eu quelques pères de l'Église qui sont plutôt dans l'Église orthodoxe. Donc c'est là qu'on connaît bien ce problème et qui ont démontré que, puisque le Christ est incarné, on avait le droit de représenter l'incarnation. Comme elle nous était parvenue du temps du vivant du Christ, ça nous donnait le droit de prier des icônes. Alors, mais les icônes sur le plan orthodoxe et les images sur le plan catholique, c'est pas du tout la même chose, parce qu'elles sont considérées beaucoup plus de manière sainte et liturgique chez les orthodoxes, et plus ici, côté catholique, comme artistique et surtout support de méditation personnelle.
Il y avait aussi un débat sur le filioque.
Ah, ça, c'est plus grave, oui.
Expliquez-nous.
Ah ben, c'est une affaire d'interprétation des textes bibliques, pour le coup, de savoir si le... il faudrait presque reprendre l'évangile de Jean pour voir un peu si... C'est des histoires de terminologie, si je vous enverrai mon esprit, quand Jésus dit ça... je vous enverrai le paraclet. Est-ce que c'est une procession? Est-ce que le Christ envoie son propre esprit, ou est-ce que l'esprit est une personne en dehors de Jésus? Et ça a fait des siècles de conflits théologiques. Et effectivement, dans certains, je pense que c'est plutôt l'Espagne, le christianisme mozarabe, ils étaient tenants du filioque. Et puis, évidemment, l'Orient, pas du tout. Alors, il fallait absolument... L'Esprit procède du Père, point. Pas du Père et du Fils. Et ces conflits ont persisté. Et au fur et à mesure que tous ces conflits divisaient un peu l'Orient et l'Occident, Charlemagne, semble-t-il, a pris position. Est-ce qu'il a bien compris? Est-ce qu'il en avait marre des discussions? Enfin, on dit qu'il a tranché, qu'il a fait avancer la chose en disant « Les catholiques, on ajoute le filioque dans le credo. » Alors, mais... J'y étais pas, hein. C'est ce qu'on dit, qu'il y est pour quelque chose. Mais ça m'étonnerait qu'à moitié, parce qu'il avait justement ce souci d'unifier, mais pas seulement les peuples, mais d'unifier l'Église. Et autour de lui, il a pris des penseurs qui auront eu ce souci. Comment unifier les rites, comment unifier la messe, parce qu'il y avait aussi un peu tout dans tous les coins, hein.
Oui, alors effectivement, j'ai noté rapidement quelques décisions conciliaires. Vous pourrez bien sûr en rajouter d'autres. Par exemple, donc la liturgie, effectivement, l'unification de la liturgie, qui va passer de la liturgie romaine, qui est liturgie romaine. On peut en avoir une toute petite idée en écoutant les enregistrements de Marcel Pérez et de l'ensemble Organum sur les chants de l'église de Rome, très anciens, qui font très très byzantins. Donc on va s'en éloigner un petit peu. Alors, une autre décision, moi, qui m'a marqué, c'est que l'évêque n'est plus élu par le peuple, mais nommé par le roi. Rappelons-nous, saint Augustin, élu par le peuple, et saint Martin de Tours.
Mais ça va prendre des siècles, ça, encore. Les empereurs vont se mêler de ça. Mais c'est aussi vrai du côté oriental, c'est aussi vrai à Byzance. C'est ça qu'on appelle le césaropapisme, c'est finalement l'empereur se mêle de tout et le pape n'est finalement qu'un pion parmi ses décisions. Alors ça fait des problèmes. Avant de se libérer vraiment, le premier qui a fait vraiment révolte, je crois que c'est au XIe siècle, Grégoire VII, qui de nouveau été élu par acclamation, peut-être un petit peu avant un décret chez Nicolas II, qui dit qu'il faut revenir à l'élection par le clergé romain. Mais après, ça a fait des conflits entre les papes et les empereurs, qui ont fait des problèmes énormes, parce que c'est pas parce que le pape disait « on va revenir à une élection plus près du peuple » que les empereurs se sont laissés faire. C'est comme ça qu'on a eu parfois deux papes, trois papes, un qui était nommé, un antipape, parce que c'était des guerres. C'est très, très, très long et très compliqué, l'élection du pape.
Alors parmi les décisions qui renforcent, pour le coup, le pouvoir du pape, c'est la restauration du titre de métropolitain, grosso modo d'archevêque. C'est-à-dire que l'évêque va quand même être soumis à l'autorité d'un archevêque qui, lui, est nommé par Rome. On sent ce jeu d'influence entre
l'Église et l'État. On cherche. Plus l'Église grandit, plus elle se renforce, plus on cherche comment organiser. Et je pense que c'est jamais fini, même de nos jours, ça se discute toujours.
C'est de la politique également. Est-ce qu'on peut, Catherine Mann, ce serait aussi le moment de faire un petit focus justement sur cette papauté, sur la naissance de la papauté, car au début, le pape, c'est simplement l'évêque de Rome, et puis il va devenir effectivement le chef de tous les chrétiens. Il y a eu des hauts et des bas dans cette histoire, et c'est une histoire très compliquée et...
Oui, le Saint Grégoire le Grand se considérait encore primus inter pares, c'est-à-dire une primauté d'honneur entre égaux, et il considérait encore que le pape était serviteur des serviteurs. Mais au fil justement des problèmes avec les états pontificaux qui ont été donnés à un pape en remerciement d'une intervention. Il y a des tractations entre les empereurs et l'évêque de Rome. Les états pontificaux vont naître au 8e siècle, et puis il va y avoir des problèmes, justement, défendre ces états. Alors on fuit chez Charlemagne, puis on revient, et puis tous les empereurs vont revenir donner des coups de main, et tout ça finit par faire que le pape va se révolter, et cette indépendance du pape qui est donc contre les empereurs est en même temps le besoin d'affirmer que le pouvoir religieux est plus grand que le pouvoir temporel. Parce que c'est ça, qui est le chef de qui ? Est-ce que le temporel doit décider du spirituel ou le spirituel du temporel ? Donc la bagarre, l'affirmation des papes va commencer par se dégager de l'importance de l'empereur, puis affirmer sa propre valeur, la plénitude des pouvoirs. Vicaire du Christ, c'est pas rien, et ça, c'est des choses du XIIe, XIIIe siècle. Ça vient très progressivement. Je crois que c'est même 14e, la bulle Unam Sanctam, qui pose la supériorité du pouvoir religieux, et qui met Boniface VIII, la première fois, il décide une année sainte, en 1300, donc c'est, et il a célébré avec les insignes impériaux sur lui. C'est-à-dire que finalement, le véritable empereur de ce monde, c'est le pape.
Alors, en tout cas, nous en sommes, nous, à l'église carolingienne, à Charlemagne, et là, c'est l'inverse. En 800, effectivement, c'est le sacre de Charlemagne. Donc là, c'est le pouvoir temporel qui prend toute la place, momentanément.
Oui, c'est surtout l'idée d'unification. Quand on fait un empereur, c'est toujours l'idée d'unifier des peuples. Ça n'a duré que le temps de Charlemagne.
Et il y a longtemps, vu qu'il avec meurt ses fils, en 814, c'est... et puis on voit déjà la partition avec ses fils, du royaume, la fin de l'Empire.
Et tout, et le morcellement féodal, et tout le système féodal, ça ne dure pas du tout, l'unité. Mais c'est... Par contre, justement, le pape, lui, il va vouloir maintenir l'unité de l'Église au milieu de la division du monde.
Louis le Pieux, donc le descendant de Charlemagne, eh bien, c'est une forme de décadence politique à l'époque avec des réformes. Alors, j'ai noté comme réforme qu'il a imposé de nouveau la règle bénédictine à tous les monastères. Louis le Pieux, parce que lui, il était au contraire peut-être... il est trop attentif à l'Église, pour le coup, et en oubliant le pouvoir temporel. On voit que le déséquilibre peut être dans les deux sens.
A priori, c'est pas son problème. Il est roi. Pourquoi faut-il à tout prix que les rois légifèrent dans le domaine du religieux?
Oui, mais il aurait négligé, du coup, le côté politique, et le royaume ne se serait pas très bien porté selon
sans doute,
au niveau politique.
Par contre, je connais rien du tout à ça.
C'est une époque d'effervescence intellectuelle, avec Raban Mort, par exemple, et puis le fameux Jean Scott Erigène, irlandais, théologien, qui est encore aujourd'hui reconnu comme un des plus grands philosophes de l'histoire de la chrétienté.
Oui, il est surtout reconnu comme un philosophe à quel personne n'a jamais rien compris, parce qu'il volait au-dessus de toutes les capacités intellectuelles de son époque. Et il a été d'ailleurs mis à l'index et pas du tout assimilé. Mais effectivement, c'est aujourd'hui, il fait couler toujours beaucoup d'encre. Les philosophes se penchent sur son œuvre, plus que les théologiens d'ailleurs. Encore que Benoît XVI l'avait quand même apprécié, et il l'apprécie peut-être encore, parce que cette recherche d'unité entre la foi et la raison...
Il a commencé en traduisant les œuvres du pseudo Denis l'Aéropagite, c'est-à-dire que ça fait le lien avec le néoplatonisme, en tout cas, et puis la philosophie grecque.
C'est ça qui est étonnant chez Scott Erigène, c'est qu'il connaissait le grec. Parce que déjà là, depuis Saint-Augustin... ce qui caractérise l'Église latine, c'est justement de ne plus pratiquer le grec et l'hébreu. Et que lui, il a été recherché tous les pères grecs et les a traduits. C'était vraiment un esprit universel, comme on dit. Il a développé des thèses qui ont fait peur au niveau de peut-être...
Est-ce que ça venait aussi... Est-ce que c'est parce que ces thèses venaient du néoplatonisme, c'est-à-dire de philosophes grecs qui étaient païens? Ou est-ce que ça n'a...
Aussi de ses réflexions. Le problème était son traité de théologie sur la prédestination. Alors qu'il avait fait des commentaires sur des idées de l'époque qui disaient que les méchants étaient programmés pour la perdition et les bons sont programmés pour le salut. J'ai pas lu son traité, je sais pas quelle est sa position, mais tous les gens qui parlaient de prédestination ont fait peur. Parce que ça a l'air de supprimer la liberté pour tous. Mais je pense pas qu'il l'ait défendu, je pense qu'il l'a critiqué. L'autre problème, c'était plus effectivement la hiérarchie céleste du pseudo-Denis. Parce que ces idées, néoplatoniciennes font une espèce de d'émanation continue depuis Dieu jusqu'à nous, avec des hiérarchies, c'est
que ce soit au multiple.
Voilà, avec une hiérarchie de présence de Dieu. Il y a toujours de la présence de Dieu, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, dans les pierres, les cailloux, etc. Mais tout... Et ça donne, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de penser le retour à Dieu, l'alpha et l'oméga. Moi, je trouve ça assez intéressant, mais malgré tout, il y a le risque qui a toujours fait peur, ce qu'on appelle le panthéisme, c'est-à-dire voir Dieu en tout. Tout est Dieu, je peux adorer un caillou, je peux adorer... Et le panthéisme a toujours été combattu par l'Église catholique. Parce que la théologie catholique veut plutôt voir un Dieu transcendant et pas un Dieu immanent, présent dans toutes les... Alors, il faut justement... Ce sont des réflexions théologiques. Je pense que nous n'avons pas la possibilité d'y entrer là. Mais c'est Érigène, lui, il les a approfondies. Comment savoir comment, justement, le logos fait l'articulation entre le Père et le monde. C'est éminemment intelligent, hein, mais...
Il ouvre la porte quand même également à la philosophie. Alors pas la philosophie telle qu'on va l'entendre plus tard avec le rationalisme, mais en tout cas, le salut, on le gagne par la connaissance. C'est-à-dire que la foi est le point de départ, mais après, il faut bosser et l'ignorance, c'est la damnation, finalement.
Oui, mais ça, c'est gnostique. Pousser les choses à ce point-là, c'est ce qu'on appelle la gnose. C'est-à-dire...
Mais ce rapport entre connaissance, foi et connaissance, que la connaissance est à l'appui de la foi et que ça permet d'avancer, c'est une idée qui va être reprise après, tout au cours des siècles en tout cas.
Oui, surtout par les gnostiques, mais le problème est de quelle pensée, de quelle connaissance s'agit-il ? Ça se discute toujours... C'est pas l'accumulation de savoir, c'est encore une fois une connaissance qui est amour, qui l'aboutissement de l'humanisme finalement. Qu'est-ce qu'un être humain abouti, accompli et en lien avec Dieu ? Il y a une connaissance de Dieu qui est indispensable, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi accessible à ceux qui sont simples, au niveau éducation ? C'est toute la question, puisqu'on renvoie toujours, par rapport à des gens comme Érigène, le fait que le Christ a choisi des pêcheurs qui n'avaient pas énormément de culture. La foi, c'est pas... Mais en même temps, il a choisi saint Paul, qui n'était pas le dernier des ignorants. Hein. C'est toujours le mystère. Qu'est-ce que la connaissance indispensable ou pas indispensable ? Je reviens quand même pour terminer ça, c'est sur l'idée que Charlemagne aurait amené la culture dans son univers. C'est faux quand même. Il a réussi à l'amener dans le clergé et dans la noblesse, dans les cadres de... Mais au niveau de la population, il n'y a pas eu d'énormes... Je rappelle que Saint-Denis l'Aréopagite n'a pas fait que les hiérarchies célestes, il a aussi fait les hiérarchies ecclésiastiques. La distinction entre trois ordres, évêques, prêtres et diacres, et tous les ordres subalternes qui ont... La hiérarchie ecclésiastique a toujours bien convenu à l'Église. Donc pour ça, on ne s'est pas fâché contre les émanations.
Catherine, notre émission s'arrête là. Nous nous arrêtons à l'approche de l'an 1000 où nous verrons le syndrome fin du monde apparaître. Peut-être un syndrome que nous ressentons parfois aujourd'hui, mais cela, nous le verrons le mois prochain. Merci beaucoup.
Merci Simon, au revoir à tous.